Il y a une personne que je n'ai jamais vraiment connue. C'est ma grand-mère paternelle. Elle est morte peu après ma naissance. Il paraît que je l'ai rencontrée une fois. Je ne connais d'elle que ce que l'on m'a raconté. Pas grand-chose, en fait. Les quelques souvenirs que mon père m'a transmis de son enfance en Inde. Peut-être ai-je vu, une fois ou l'autre, une photo d'elle, mais je ne m'en souviens pas. Il ne me reste plus grand monde dans ma famille qui pourrait me raconter cette femme. Pourtant, j'ai hérité d'un quart de son génome, de son matériel génétique. Tenez, par exemple, je suis sûre d'avoir l'un de ses chromosomes X. Elle l'a transmis à mon père, qui me l'a transmis. Mais que m'a-t-elle transmis, au juste ? Cet inconnu niché au cœur de mon ADN.
Il y a différentes choses qui peuvent être transmises, qui résultent des expériences de vie, que ce soit des traumatismes ou des expériences positives. Si elle a pris des médicaments, si elle a été exposée à des pesticides ou des produits phytosanitaires qu'on utilise en agriculture. Pendant son enfance à elle, ça peut laisser des traces dans les cellules germinales et qui sont éventuellement perpétuées ou transmises à la génération suivante.
Et à la génération d'après. Bienvenue dans Microsciences, le podcast qui transforme nos petites questions familiales en grandes réponses scientifiques et épigénétiques. Microsciences, un podcast de la RTS. Nous rencontrons aujourd'hui Isabelle Mansui, professeure en neuroépigénétique à la faculté de médecine de l'Université de Zurich et dans le département des technologies et des sciences de l'École polytechnique fédérale de Zurich. C'est elle qui va nous guider dans l'épigénétique, un domaine de la biologie qui nous livre peu à peu ses secrets. Les expériences de la vie, bonnes ou mauvaises, s'inscrivent dans l'intimité de nos cellules, génération après génération. Mais avant cela, un rappel sur la génétique.
C'est l'ADN qui est contenu dans les chromosomes de chaque cellule. L'ADN est la double hélice que la plupart des gens arrivent à se représenter. Donc c'est la molécule qui contient le code avec les gènes et les parties entre les gènes.
C'est ce qui fait que j'ai les yeux bruns et que mes cheveux sont foncés, par exemple. Tout ceci est codé dans mon ADN. Mais alors, l'épigénétique ?
L'épigénétique, c'est tout un ensemble de facteurs qui sont sur l'ADN ou autour de l'ADN et qui régulent l'ADN. Donc l'épigénétique vient en complément de la génétique.
Et ce n'est pas rien comme complément. Pour expliquer ce qu'est l'épigénétique, les scientifiques utilisent parfois l'analogie de la musique.
L'ADN, le code génétique, ça représenterait la partition. Et les instruments et les musiciens représentent les mécanismes épigénétiques. Donc vous imaginez la diversité, il peut y avoir des tas d'instruments, des tas de différents musiciens. Et puis on peut aussi étendre l'analogie au public.
La partition, elle, reste la même.
Par exemple, une partition de musique classique avec le public qui est assez calme et qui ne va pas influencer la manière dont la partition va être interprétée. Où on peut prendre une pièce de musique du jazz, par exemple, où là, le public va éventuellement influencer les musiciens par des encouragements, par des applaudissements, par des chants, etc. Et si on prend les expériences de vie, ben les expériences de vie vont, ou l'environnement, ce sont des facteurs qui vont influencer les musiciens, les instruments. Donc c'est tous ces facteurs, tous ces éléments extérieurs qui peuvent modifier les facteurs épigénétiques. L'ADN lui-même ne va pas être modifié par l'environnement social, par l'alimentation, par les expériences de vie.
Ce qui se passe hors de moi, autour de moi, a une influence directe tout au fond de mes cellules. Notre ADN est donc marqué par notre vécu. Notre partition intime est annotée. Un peu comme dans un texte. Certains mots sont surlignés, soulignés, entourés. Aujourd'hui, on peut facilement lire le code génétique. Cela s'appelle le séquençage. Et différentes techniques permettent aussi de savoir si certaines parties de notre ADN ont fait l'objet d'une annotation épigénétique. On est encore en train de traduire ces annotations, de les étudier, de les comprendre. Ce qui est sûr, c'est que quand notre code source est annoté, marqué par les expériences de la vie, cela peut se voir aussi partout dans le corps.
Donc en effet, au niveau physiologique, certains facteurs épigénétiques sont mesurables, non seulement dans les cellules, mais également dans les fluides biologiques.
Ça voudrait dire qu'on pourrait identifier ce que j'ai vécu, un traumatisme par exemple, dans mon sang?
Oui, peut-être. En tout cas, chez la souris, nous, on a analysé les ARN dans le sang et on a vu que la quantité de certains ARN, des petits ARN en particulier, était altérée des animaux qui ont été traumatisés pendant leur vie précoce. Et on a fait des analyses analogues chez des enfants et des adultes qui ont été eux-mêmes traumatisés. Et on s'est rendu compte que certains petits ARN, qu'on appelle des micro-ARN, ceux que l'on avait identifiés comme étant altérés par le traumatisme chez la souris, que les mêmes micro-ARN sont également altérés chez l'être humain.
Les traumatismes des souris nous en apprennent donc plus sur la façon dont les humains souffrent.
Et on a aussi fait des analyses dans le sperme d'hommes qui avaient été traumatisés pendant leur enfance, avant l'âge de 17 ans. Et on a vu que certains des micro-ARN étaient également altérés chez ces hommes. Certains de ces micro-ARN peuvent être utilisés comme des biomarqueurs qui suggèrent la survenue d'expériences traumatiques pendant l'enfance.
Et ce sont ces blessures épigénétiques qui seront transmises aux générations suivantes.
Certaines de ces modifications épigénétiques, en effet, sont présentes dans la progéniture. En tout cas, chez la souris, on sait que la progéniture de mâles qui ont été traumatisés ont en grande partie des modifications, des altérations épigénétiques qui sont semblables aux pères, à leurs pères qui ont été traumatisés.
Revenons-en à ma grand-mère. Ses expériences, à elle, ont donc marqué son ADN. Un ADN qu'elle m'a en partie transmis. Donc, on pourrait lire son passé. Serait-il possible de savoir quelle part de blessure me vient de cette grand-mère que je n'ai pas connue?
Non, on ne peut pas le quantifier. Parce qu'il y a beaucoup trop de facteurs qui peuvent influencer. Il y a non seulement votre grand-mère, mais ensuite il y a vos parents à vous, qui eux-mêmes ont leur propre bagage génétique et épigénétique, leur propre expérience de vie. Et il y a votre parcours à vous aussi. Ce n'est pas possible de quantifier ça chez l'être humain. Il y a trop de facteurs interférents.
Et des interférences, il y en a eu. Dans la vie de ma grand-mère, elle naît avant la partition des Indes, à une époque où il n'y avait ni eau, ni électricité. Des interférences, il y en a eu aussi, dans la vie de mes parents, et dans la mienne également. Finalement, de génération en génération, ces annotations sur mon code génétique se mélangent, et je ne saurais jamais lesquelles sont les miennes. Je ne sais pas pourquoi, mais tout à coup, j'ai l'impression que les souffrances de mes ancêtres se réveillent les unes après les autres. Depuis l'aube de l'humanité, serait-on marqué par tous les traumatismes de nos aïeux?
On peut l'être, oui, mais l'espèce humaine a traversé une succession de périodes difficiles, traumatiques, qui peuvent laisser des traces à travers les générations, mais qui peuvent aussi être effacées ou compensées par des périodes de vie heureuses. N'empêche que c'est quand même connu que des pays qui ont des conflits violents pendant des décennies, les enfants qui sont nés pendant des périodes de conflits et qui n'ont jamais vécu la paix vont avoir beaucoup plus de problèmes de santé mentale que des enfants qui ont grandi dans un environnement paisible et sans conflit. Mais à l'échelle humaine, à l'échelle de milliers d'années, le fait que des périodes de guerre aient parfois été entrecoupées par des périodes de paix permettent à l'être humain finalement de quand même garder un certain équilibre.
Mais au fond, sommes-nous tous égaux face à ces marques, à ces coups et à ces cicatrices de la vie? Est-ce que j'ai les mêmes bleus sur le génome que les autres?
Non, on n'est pas tous égaux, pour différentes raisons. Si on prend un traumatisme qui affecte de nombreuses personnes en même temps, on va prendre par exemple la forte explosion qui a tué pas mal de gens au Liban, à Beyrouth, il y a quelques mois. Donc c'est le même traumatisme, plus ou moins le même traumatisme, qui est vécu par de nombreuses personnes. Il y a beaucoup de variations, parce que les gens peuvent être touchés eux-mêmes, peuvent être touchés physiquement ou touchés moralement, et il y a l'après-événement. comment les gens en parlent, s'ils en parlent, comment ils en parlent, s'ils ont du soutien, s'ils ont été blessés dans leur chair et que la blessure a des conséquences pendant des semaines et des mois. Si la personne n'a pas été blessée, a simplement vu des choses, bien sûr, il peut y avoir des traumatismes dus à ce qu'on a vu. Mais c'est pas la même chose que d'être blessé et de perdre un membre, par exemple, qui là va mutiler la personne à vie. Vous voyez, donc il y a vraiment toutes les nuances de l'expérience vécue et du passé qui vont se combiner pour déterminer comment la personne va vivre ce traumatisme-là.
La façon dont on a vécu un événement, s'il nous affecte plus ou moins, changera donc la manière dont notre matériel génétique est annoté. Et ces bleus seront à leur tour transmis à nos descendants qui n'ont pourtant pas vécu cet événement. Et puis, évidemment, la vie n'est pas toujours indulgente. Les traumatismes pourraient se répéter.
On a très peu de données vraiment quantitatives pour comparer. Admettons, on aurait un modèle animal et on fait subir un traumatisme un jour, ou deux jours, ou trois jours d'affilée. Et ensuite, on fait des études comparatives entre les effets. Ça n'a pas été fait. Ce qui a été fait, par contre, c'est de comparer un stress aigu, c'est-à-dire l'exposition une fois à un traumatisme chez l'adulte, et un stress chronique, donc un stress répété. Et là, évidemment, oui, les conséquences épigénétiques sont différentes. Ce qu'on sait, c'est qu'un traumatisme répété a le risque que les perturbations épigénétiques soient plus nombreuses, plus persistantes et plus répandues dans le corps, évidemment plus grand.
Des marques sur notre ADN comme autant de rappels de souvenirs douloureux. Au fond, comment cela va se traduire sur ma physiologie et sur mon comportement ?
Tout dépend du traumatisme, tout dépend de l'exposition. Si on prend une exposition, si une personne a été exposée à la famine, par exemple, il va y avoir des conséquences sur l'organisme, sur le métabolisme, sur les organes qui participent à la digestion, à l'absorption des aliments, perturber la croissance éventuellement. Ensuite, si c'est un traumatisme, là, c'est tout un autre panel de conséquences physiologiques, non seulement métaboliques, mais aussi mentales, psychologiques, sur le fonction du système nerveux, sur la communication entre les neurones, sur la plasticité des circuits neuronaux et conduire à des pathologies comportementales.
On pourrait donc identifier des maladies épigénétiques ?
Oui, des maladies cardio-métaboliques, l'obésité, le diabète, par exemple. Pour ce qui concerne les traumatismes et toutes les maladies psychiatriques, dépression au borderline, prise de risque, addiction. Donc oui, on peut attribuer des maladies à des perturbations épigénétiques qui sont dues à des facteurs soit environnementaux, soit des facteurs génétiques, car les mécanismes épigénétiques font appel à des enzymes qui elles-mêmes sont codées par des gènes, et s'il y a des mutations dans ces gènes, ça peut conduire à des maladies qu'on appelle des maladies épigénétiques, en effet.
L'épigénétique change la manière dont on aborde certaines maladies et certains troubles. Donc,
être exposé à un traumatisme ne va pas sélectionner vraiment les gens, parce que c'est pas létal. C'est sûr que quelqu'un qui est exposé à un gros traumatisme, violence physique ou sexuelle pendant l'enfance, va en subir les conséquences pendant toute sa vie. Mais c'est pas pour autant que la personne ne va pas vivre. Elle va vivre dans la souffrance. Certaines vont vivre dans la souffrance, mais il y a d'autres aussi. Vous savez, il y a des mécanismes dans l'enfance qui permettent d'occulter des traumatismes. Il y a beaucoup d'exemples comme ça de gens qui ont été traumatisés, enfin qui ont été maltraités, mais qui ne s'en souviennent pas forcément.
Mais ne faudrait-il pas s'exposer à ces traumatismes pour y devenir plus résistant ?
Oui, on dit souvent, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Bien sûr, un enfant qui est surprotégé va peut-être pas forcément être le mieux armé pour faire face à de l'adversité lorsqu'il sera adulte. Un enfant qui est exposé un petit peu à des situations un peu difficiles, où il doit se remettre en question, où il doit développer des stratégies de résistance, où forcément il sera mieux à même de faire face à des situations difficiles lorsqu'il sera adulte.
En fait, il y a les traumatismes et les difficultés, les défis de la vie. Ils n'auront pas le même effet. Et puisqu'on décèle les traces des maltraitances de la vie sur notre génome, le bonheur, lui, peut-on le lire ?
Je ne sais pas. C'est difficile de répondre à cette question, parce que comment est-ce qu'on peut faire Toutes les expériences de vie ont des conséquences sur l'épigénome, hein, donc c'est possible qu'il y ait des modifications. Mais ensuite, identifier et savoir où les trouver et lesquelles, ça c'est difficile de répondre à cette question.
On pourrait prendre une cohorte de gens heureux, des gens toujours heureux. J'en connais. Peu, certes, mais il doit bien y en avoir suffisamment pour une étude.
Bon, d'accord, on arrive à sélectionner 100 personnes qui remplissent un questionnaire de bonheur. Vous pouvez avoir des végétariens dans ces 100 personnes, des personnes qui fument, d'autres qui fument pas, certaines personnes qui prennent des médicaments. Et ensuite, comment attribuer des changements que l'on observerait dans leur sang, par exemple, à la notion de bonheur? Il pourrait y avoir tellement de facteurs qui influencent les facteurs épigénétiques, donc c'est un peu, vous voyez, ça serait que corrélatif, ça serait difficile de tirer des conclusions certaines.
Il n'est donc pas simple de mettre le doigt sur l'événement exact qui va bousculer, en bien ou en mal, notre épigénome. Mais alors, comment être sûr que les marques laissées sur notre ADN par un traumatisme sont bien dues à ce traumatisme?
Bien sûr, c'est exactement la même chose, la même problématique. Simplement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a une base chez les animaux. On sait, chez les animaux, quels facteurs épigénétiques sont systématiquement altérés par le traumatisme. Et on a regardé ces facteurs-là en particulier chez l'être humain. Donc, bien sûr, c'est que corrélatif, mais on sait que ce sont des marqueurs de traumatisme chez l'animal, et on suppose que ce sont aussi des marqueurs de traumatisme chez l'être humain, mais bien sûr, on peut pas en être certain. Ensuite, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait une cohorte d'enfants qui viennent de villages SOS au Pakistan.
L'équipe d'Isabelle Mansui a identifié les mêmes marqueurs dans le sang des enfants orphelins que ceux que l'on retrouve chez les souris séparées de leur mère. Ces marqueurs sont présents durablement. Ils induiront des modifications épigénétiques qui seront peut-être transmises à leurs enfants.
Et ce sont des enfants qui habitent tous dans le même orphelinat, qui fréquentent la même école, et puis voilà, qui sont logés au même endroit, qui ont une alimentation assez semblable, un environnement assez semblable. Alors il y a un certain nombre de facteurs qu'on peut éliminer. C'est pas comme si des enfants avaient un mode de vie complètement différent. Là, le mode de vie est relativement semblable. Mais malgré tout, vous avez raison, on peut pas nier le fait que ce ne soit qu'une corrélation et on peut pas lier ça de façon causale.
Moi, je rêve qu'un jour on puisse cartographier mon épigénome, que je puisse y repérer les cicatrices de ma grand-mère, les blessures de mes parents et mes propres bobos.
C'est assez peu probable qu'on en puisse avoir ce genre de circonstances. Ce qu'on pourra dire, c'est, voilà, vous avez tel marqueur épigénétique dans votre sang, ça peut être dû à ceci ou à cela, ça peut peut-être venir de votre propre expérience de vie à vous, ou alors avoir été transmis par votre père, ou votre mère, ou vos grands-parents. Mais on ne pourra jamais être complètement certain de l'origine des changements épigénétiques. Il y a beaucoup de recherches qui est faites maintenant, c'est relativement nouveau, mais des recherches en parallèle chez l'être humain et les modèles animaux, de façon justement à essayer de construire des cartes de marqueurs biologiques qui sont fiables chez l'être humain. Alors c'est une combinaison, ça ne dépend pas que d'un seul marqueur, mais c'est une combinaison de facteurs. C'est vraiment une carte des signatures épigénétiques qui peuvent donner des indications sur l'état santé ou l'état mental de la personne à un moment T. L'origine de ces changements, encore une fois, on ne pourra jamais vraiment les attribuer à une cause ou une autre, à moins éventuellement d'avoir une étude vraiment systématique chez les deux parents, chez l'enfant, au cours du temps, pour voir comment est-ce que ça évolue, quelles marques sont vraiment caractéristiques du père et de la mère et de l'enfant. Je suis même pas sûre que ça soit complètement nécessaire de se dire, voilà, vous avez ce changement épigénétique, mais c'est probablement dû à ce que votre ancêtre a vécu.
Si on ne peut pas remonter dans le passé, pourrait-on évaluer l'effet d'un drame que je vis là, maintenant?
Oui, et éventuellement avoir des indications du risque risquent de développer de certaines maladies après l'exposition à un traumatisme ou l'exposition à d'autres choses. Oui, je pense que ça, dans le futur relativement proche, ça devrait être possible chez l'être humain.
Je porte peut-être en moi ce que mes ancêtres ont vécu. Et mes expériences, mon vécu, marquent mon génome. Aujourd'hui, il fait un peu gris dehors. Et peut-être que vous l'entendez, je suis un peu mélancolique. Une femme a laissé des traces dans mon code génétique et je ne la connais pas. Mais j'ai pas envie qu'on se quitte sur cette note négative. Et si on prenait soin, ensemble, de notre épigénome?
L'épigénome est dynamique, justement, c'est une de ses propriétés que l'on peut exploiter. Alors, l'alimentation est importante, le moins possible de produits toxiques, si on peut les éviter. Ça permet d'empêcher ou d'éviter des altérations épigénétiques indésirables. L'alimentation est vraiment importante parce qu'il y a des tas de facteurs dans les fruits, dans les légumes, dans les fruits de mer ou qui sont indispensables à la machinerie épigénétique, des vitamines, des ions minéraux.
Eh ben voilà. Pourquoi le chocolat n'est pas dans cette liste? Si je résume, il faut que je mène une vie saine.
Il y a rien de nouveau dans ce que je dis. Simplement, ce que l'on comprend un tout petit peu mieux, c'est pourquoi bien s'alimenter, faire du sport, bien dormir est important pour la santé physique et la santé mentale. Ça influence les mécanismes épigénétiques de façon directe et quasi immédiate et de longue durée. Donc c'est par ces facteurs-là ou ces habitudes, ce style de vie, notre style de vie que l'on peut influencer notre épigénome.
Les étiquettes, ça colle au génome. Mais pas seulement. Combien de fois un enfant est-il catalogué de copie de l'un de ses parents? Tel père, tel fils, la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Les chiens ne font pas des chats. Telle grand-mère, telle petite fille, elle avait sans doute des manies, des défauts et des excentricités, cette grand-mère-là. Elle avait perdu l'une de ses filles. Je me souviens que mon père m'en avait parlé. Je ne pensais pas à la cascade épigénétique qu'elle avait vécue face à ce drame. Et si les bleus au génome sont transmis d'une génération à l'autre, si les expériences de nos grands-parents se répercutent sur notre santé mentale et physique, ils se soignent aussi. La fatalité de l'héritage familial a heureusement des limites.
Pourquoi mon orteil me fait si mal quand je le cogne? Pourquoi je dors? Pourquoi je rêve? Qui a inventé la seconde? Pourquoi le glaçon flotte dans mon verre? Où va la lumière quand j'éteins ma lampe? Mon ficus essaie-t-il de me parler?
Si cet épisode ne vous a pas traumatisé, partagez-le ou envoyez-moi vos commentaires, vos questions sur microscience@rts.ch, microscience en un seul mot et au pluriel. Prenez bien soin de votre épigénome en vous abonnant, par exemple, à ce podcast sur Apple Podcast, Google Podcast ou sur Play RTS. Moi, c'est Uma Camis. Et trois autres bases constituent l'ADN de Microscience. Grégoire Moll, coproducteur, Mathieu Ramsauer, réalisateur, et Jérôme Nussbaum, habilleur musical.